France Inter, franceinter.com.
Je veux que ça sente la frite, avait déclaré, dit-on, Jacques Chirac ce matin lors de l'inauguration du Forum des Halles par le maire de Paris. Ça sentait plutôt la peinture fraîche.
Aujourd'hui, l'opération des Halles est achevée aux deux tiers. Il nous reste aujourd'hui à réaliser l'espace vert, à définir l'architecture des trois groupes de bâtiments prévus autour de la centrale de climatisation, à achever la zone piétonne, qui sera, je le rappelle, la plus vaste d'Europe et qui s'intégrera dans tout un ensemble de renaissance du cœur de notre capitale, allant à terme, bien sûr, il s'agit là d'un objectif, depuis l'admirable place des Vosges jusqu'au Palais Royal, à construire enfin les équipements collectifs qui viendront prendre place au pied de la bourse de commerce sous le jardin. En tant que maire de Paris et représentant d'une municipalité qui a recouvré son autonomie et le statut de droit commun, je me considère comme le premier responsable.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Aujourd'hui, si les Halles sentent effectivement et assez souvent la frite, 30 ans après la conquérante feuille de route fixée par un maire nommé Jacques Chirac, la renaissance du cœur de Paris, elle, se fait toujours désirer. Depuis la démolition des pavillons Baltard et le creusement de ce fameux trou des Halles qui reste comme une plaie toujours ouverte au cœur d'une génération de Parisiens, on a le sentiment que politiques et architectes ont souvent tenté de poser quelques rustines sur un Titanic urbanistique. Mais peut-être que les choses vont enfin changer. En décembre dernier, l'architecte David Mangin, Grand Prix de l'urbanisme 2008, se voyait désigné comme coordinateur du réaménagement du quartier des Halles. Son agence sera, étant en plus, chargée de la création du futur jardin qui prendra place sur la dalle, au pied de l'église Saint-Eustache. Après le concours qui avait déchaîné les passions en 2004, l'actuel maire de la capitale semble avoir choisi la prudence et la division des risques. Comment expliquer que penser la ville aujourd'hui soit plus difficile en France qu'ailleurs? Beau sujet de discussion pour ce soir avec notre invité David Mangin.
Haystack charm around your neck, strung and thin, calling some friend, trying to cash some check. He said you're acting dumb, well that's what you've come to expect. Treat, falling out, sixth and pile of dead sweat in my teeth. I'm gonna walk, 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 four more blocks plus the one in my break. Down, downstairs, to the
the man, he's gonna make it all okay. I can't beat myself, I can't beat myself, and I don't wanna talk. I'm taking a journey so I can be quiet whenever I want. So leave me alone, you ought to be proud that I'm getting good marks. Needle in my hay, oh, needle in my hay, oh, needle in my hay, hey, needle in my hay. Be that a body, be that a body, be that a body. Whoa, be that a body, be that a body, be that a body. Whoa, be that a body, be that a body, be that a body. Whoa, be that a body, be that a body, be that a body. Whoa,
quel que soit l'avenir des Halles, il faudra qu'il reste des commerçants aux Halles. Le commerce, dans la vie d'une cité, est un élément non pas simplement d'activité économique, mais de vie de la rue, de contact entre les hommes qui se rencontrent chez les commerçants, qui se rencontrent avec les commerçants, et ainsi se créent des liens, des relations, des connaissances qui donnent à la vie dans une ville une certaine chaleur, une certaine humanité. En tout cas, je pense pour ma part que, quels que soient finalement les projets définitifs, quels que soient surtout les projets définitifs qui seront réalisés, je suis convaincu que les Halles, situées comme elles sont, au centre de Paris, resteront ce qui a été leur tradition, leur vocation, c'est-à-dire non pas uniquement un centre de commerce alimentaire, mais un centre d'animation et de vie en commun.
Bonsoir David Mangin.
Bonsoir.
1971, Pompidou, 79, Chirac. Depuis le temps que les politiques, l'opinion publique, les intérêts privés, la SNCF, la RATP, les architectes s'occupent de ce traumatisme national, c'est vrai qu'on peut se demander si votre opération, celle qui est en train de s'engager maintenant, ne relève pas davantage de la médecine que de l'architecture.
Oui, à certains égards, c'est presque de la mécanique ou de l'horlogerie. Pourquoi ? Parce qu'on hérite d'un site qui est maintenant devenu extrêmement complexe. S'il y a eu ce fameux trou des Halles, c'est ça que souvent les gens oublient, c'est parce qu'il y avait un projet en réalité derrière, un projet certes souterrain, mais qui a été un bouleversement complet pour Paris et la région parisienne. C'est la décision de faire une grande croisée de RER en plein centre de Paris. Donc c'est faire arriver trois lignes de RER dans Paris et rendre accessible le centre de Paris à 20 minutes pour les gens qui habitent la banlieue et qui sont sur les lignes de RER. Donc ça fait toute une couche extrêmement importante qui est la chose vraiment importante. Il y a évidemment la surface des choses, il y a l'espace public, il y a des tas de choses qui nous passionnent ou qui passionnent les gens ou les gens du quartier. Mais je crois que la difficulté des Halles, c'est qu'il faut répondre à une échelle qui est métropolitaine, on parle du Grand Paris maintenant, mais c'est quasiment le premier projet grand parisien et qui a bouleversé complètement la donne à Paris, qui fait que les jeunes de banlieue, c'est principalement ça, c'est le centre d'arrivée des jeunes de banlieue qui se retrouvent là, qui peuvent sortir de leur cité et qui restent dans les sous-sols. Une grande masse de gens restent dans les sous-sols, dans le centre commercial, et une masse de gens aussi ne font qu'échanger dans leur système de transport au quotidien. Et puis, il y a donc du transport dessous, qui est une structure qui a été pensée comme un sarcophage. Et puis, tout autour, il y a eu aussi ce dont vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce chantier très particulier qui a été fait. On aurait pu le faire tout à fait différemment, et peut-être on aurait pu garder les pavillons de Baltard en le faisant, mais c'était une complexité technique qui a été balayée à l'époque. Il y a un échangeur autoroutier, on a entendu Georges Pompidou tout à l'heure, il a raison quand il dit que ça a toujours été le commerce, les Halles, et c'est une assez bonne chose, et ça continue à l'être sous une forme très différente que le grand marché de gros ou des rues commerçantes. Mais c'est aussi un échangeur autoroutier qui fonctionnait aussi à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire l'idée qu'on faisait arriver les autoroutes urbaines, les voies sur berge. Donc il y a aussi cette structure-là qui est comme une espèce de... C'est une grande boucle, plusieurs grandes boucles qui enserrent tout ça. Et puis, se sont glissés là-dedans un gigantesque centre commercial avec le plus grand complexe cinématographique et des équipements la plus grande Fnac, etc., tous les grands magasins qu'on connaît, qui se sont développés en hauteur, donc qui sont partis de ce niveau moins 3, qui est le niveau général des halles souterraines qu'on connaît, qui correspond à l'accès au pôle de transport. Et puis, il y a le jardin au-dessus et ce qu'on peut faire par-dessus tout ça. Donc, ça se joue au millimètre parce qu'il y a des contraintes techniques extrêmement difficiles pour soit démonter un certain nombre de choses pour les rendre plus viable ou parce qu'on a changé d'idée sur la ville, c'est-à-dire qu'on ne veut plus avoir des autoroutes urbaines, on ne veut plus avoir dans le quartier des Halles des sorties de voitures qui débouchent dans les rues tout autour des Halles. Ça, c'est vraiment aussi une des parties dont on parle peu, mais qui est extrêmement importante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour éviter ça. Là, pour ceux qui connaissent Paris, comment on fait pour prendre la rue Saint-Honoré sans avoir à enjamber des barrières pour aller d'est en ouest. Comment faire pour que les touristes puissent effectivement aller du Louvre au Palais-Royal en passant par un jardin des Halles ou un parc des Halles rénové, et puis place des Vosges. Bon, comment faire toutes ces séquences-là, c'est un travail qui est très complexe.
Mais vous venez d'énumérer les innombrables problèmes, David Mangin. Et du coup, la question se pose, c'est vrai qu'on se souvient qu'en 2004, tout le monde s'était emparé avec flamme et passion, et un peu de mauvaise foi aussi, comme il le faut dans ce genre de débat, des projets, puisqu'on se disait, puisqu'une faute a été commise, une faute contre l'esthétique, contre l'urbanisme, ou contre la conception de la ville dans les années, au début des années 70. Peut-on réparer cette faute en essayant d'améliorer les choses petit à petit, par petits bouts, ou est-ce qu'il ne faut pas tout défaire, tout repenser? Et c'était là où on avait fait appel à des architectes en disant, ben voilà, est-ce que faisons pas ce pari du 21e siècle auquel tout le monde rêve. Puis finalement, le maire est revenu un peu sur ce fantasme de faire du neuf sur du raté. Et on a confié à plusieurs architectes, du coup, et pas un seul, de faire un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut réparer les Halles?
Oui, enfin, c'est ma conviction. Je pense que le débat de 2004, parce que donc, nous, on a participé au débat où il y a eu 4 architectes, 4 équipes, qui a été un concours très particulier, puisque c'était un concours où la mairie a exposé avant de donner sa décision. Donc, en général, les responsables prennent une décision dans des jurys et puis informent, et on parle assez peu des solutions alternatives. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une première exposition qui a essayé d'expliquer l'histoire des Halles, pas très bien comment tous les problèmes de fonctionnement des Halles et toutes les contraintes des Halles, et notamment les contraintes de ce système de transport. Ce système de transport, ça, on ne peut pas le bouger. Je veux dire, il est extrêmement utile à la région, il est congestionné. Ce qu'on peut faire, c'est l'améliorer. Commençons par ce premier sujet, parce qu'il est central. C'est-à-dire, comment faire pour que les gens qui viennent à Paris puissent sortir dignement dans un espace public décent, quoi. Pour le moment, vous sortez des Halles, vous prenez le tube, comme les Parisiens l'appellent, vous avez pris la salle d'échange surnommée le Flipper par les Parisiens, puis après vous prenez le tube, et puis vous n'êtes pas du côté de Saint-Eustache, pas du côté de la Bourse, du commerce, donc vous sortez tout de suite happé par ce que j'appelle la ville franchisée, et puis voilà. Donc ça, il y a à la fois pour des raisons d'améliorer la sécurité, parce que les flux de personnes ont énormément monté, on peut faire un certain nombre de choses, et on va faire un certain nombre de choses. Par exemple, la place Marguerite de Navarre, qui est derrière le Novotel, qui est un peu en dehors du grand plateau central des Halles, là, il y a un travail considérable qui va être fait. Là, on va vraiment refaire complètement là, donc on fera une place nouvelle, et on fera un accès direct au système de transport.
Bon. Est-ce que la notion, même le critère de beauté, peut-il avoir un intérêt dans ce débat? Ou est-ce qu'il faut de toute façon l'évacuer carrément, puisqu'il y a autant de critères de beauté qu'il y a de Parisiens? Mais est-ce que l'esthétique, l'harmonie, et c'est quoi l'harmonie d'un complexe moderne dans un quartier qui l'est moins? Est-ce que ça a un intérêt d'ailleurs d'en parler?
Moi, je pense que c'est d'abord un problème de... C'est vrai que le premier problème, c'est un problème de flux. C'est-à-dire comment faire marcher des flux différents. Et de toute manière, les Halles, le vrai spectacle, c'est les gens. C'est-à-dire la diversité. C'est un des rares endroits où vous pouvez voir des gens extrêmement divers. Vous pouvez rencontrer des gens que vous ne voyez pas ailleurs. Donc il y a une espèce de fascination, répulsion par rapport aux Halles qui tient un peu de ça. Mais une des architectures de flux, ça peut être très simple et très beau. Donc nous, notre projet, le projet qu'on essaie de faire, Et donc, ça a été. Le maire a décidé en 2004 de prendre tous les principes, de nous confier toute une série de réalisations à faire qui concernent les tunnels, les infrastructures, le jardin, les accès à la gare, et puis de mettre au concours pour avoir diverses solutions par rapport aux principes de base qu'on avait donnés, c'est-à-dire un grand toit. Napoléon III avait dit à Baltar, finalement, il me faut un parapluie et pas plus. D'une certaine manière, on fait un très grand parapluie à l'échelle, ce que Patrick Berger et Jacques Anzioutti vont faire pour leur part, c'est-à-dire traduire cette idée qu'il y a un grand parapluie qui est finalement la traduction et la signification profonde du site tel que depuis, prenons acte, quand dans les années 70, on a fait cette grande gare. Et donc, pourquoi cette grande gare? Il ne faut pas dire assumer le fait que cette grande gare sorte. Donc, ce projet qui s'appelle la Canopée, qui reprend l'idée qu'il y a une espèce d'harmonie, pour reprendre votre expression, possible entre le vélum du jardin, c'est-à-dire là où on va essayer de reprendre les arbres qui existent, puis d'en pousser davantage, donc jusqu'à 8-9 mètres, et le bâtiment lui-même faisant 8-9 mètres. Donc, une autre ambiguïté, je pense, dans le grand public, c'est qu'il ne pourrait y avoir d'architecture spectaculaire métropolitaine qu'avec des tours, grosso modo. Donc, si vous voulez, en finale de ce concours, on s'est retrouvé contre un projet d'un certain nombre de petites tourettes faites par un célèbre architecte hollandais excellent, par ailleurs, mais qui, lui, partait du principe, quand même, si on suivait son projet initial, de creuser la totalité du site. Voilà. Bon, évidemment, c'est un projet séduisant, notamment en maquette, mais qui se heurte à... Bon, dans les concours, évidemment, on fait des impasses sur toute une série de questions. Mais il se trouve que, quand même, il y avait un certain nombre de gens qui sont... On ne peut refaire les Halles que si on met d'accord ensemble les transporteurs, les gens qui gèrent le centre commercial, la ville qui gère les équipements et qui est en charge de l'espace public. C'est tellement complexe que si vous privilégiez entièrement le transporteur, et le centre commercial n'existe plus. Donc qu'est-ce que vous faites d'un urbanisme souterrain qui ne marche plus ? Ça, c'est un problème très coton. On a vu les Halles ne pas marcher, d'ailleurs. Et on voit bien comment les choses... En 95, par exemple, quand il y a eu la grande grève des transports, qui a duré plusieurs jours, les Halles étaient vides. Donc là, il y avait grandeur réelle, un test que les Halles ne fonctionnent que par le dessous. C'est ça sa particularité. C'est pour ça qu'on a fait un bouquin qui s'appelle « Les Halles, ville intérieure ». C'est parce qu'on part du dessous et c'est... Donc il y a des immeubles de grande hauteur dont on parle, les tours, mais il y a aussi des immeubles de grande profondeur, c'est les Halles. Voilà. Donc il n'y a pas que les tours comme manifestation d'architecture. Il y a de très belles architectures qui sont des grandes nappes horizontales. De grands architectes s'y sont essayés. Piano, par exemple, qui est voisin, il a fait de très beaux musées avec ce qui sont simplement un toit. Et on pourrait citer Toyo Ito, le japonais. Enfin, il y a toute une série de très grands architectes contemporains qui ont fait de très belles réalisations qui ne sont pas... Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le débat architectural, il est entre... surtout ne montrez pas l'architecture parce que il faut qu'elle s'intègre. Et puis, il nous a fait tellement de misère dans les temps passés. C'est tellement médiocre. Et puis, les grands ensembles, et puis, etc. Et puis, paradoxalement, d'un autre côté... Les élus qui essaient de jouer ce que j'appelle l'effet Bilbao, c'est-à-dire à chaque fois, il faudrait, même dans une commune de 5000 habitants qui n'a pas le moins de budget de fonctionnement, il faudrait qu'un objet
architectural signe la mandature.
Bon, alors donc, moi, je n'ai absolument rien contre ça. Je suis architecte, donc j'ai beaucoup de plaisir à me promener dans un certain nombre de ces bâtiments. Simplement, moi, mon interprétation à cette étape qui nous a été donnée de réfléchir, qui était complexe, c'était comment faire que le quartier fonctionne mieux. Moi, j'ai essayé de faire une réponse qui soit à la fois la grande gare métropolitaine, à la fois faire un espace public, le jardin, qui soit entièrement refait. Et il y a des tenants du « on ne bouge rien » parce que finalement, on a pris nos petites habitudes. Voilà. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Ça a posé pas mal de problèmes et beaucoup de discussions. Donc il y a quand même au moins 3-4 ambitions qui sont très fortes et complexes à mettre en œuvre. Et j'espère qu'on va les commencer en 2010.
Alors justement, puisque les Halles, en fait, autant d'habitants de Paris, autant d'avis sur les Halles, on oublie souvent quand on parle d'architecture urbaine, comme ça, qu'il s'agit surtout d'un endroit pour les habitants, pour les passants, et vous l'avez dit, David Mangin, pour ceux qui prennent les transports et qui arrivent dans ce cœur de Paris. Alors, Martine Abad nous a rejoint.
Bonsoir.
Bonsoir Martine. Et alors, vraiment, c'est le hasard, parce qu'on partait du principe que dans ce reportage, on n'entendrait que des critiques, des halles aujourd'hui et des halles demain. Eh bien, Martine, vous avez rencontré des gens qui, finalement,
oui,
utilisent, parce que c'est vraiment le verbe, utilisent très très bien l'actuel
quartier
des halles.
Voilà. L'une, en fait, c'est vrai que j'ai conservé ces deux témoignages parce que c'était les plus intéressants. L'une y vit et l'autre vient de banlieue et donc y passe beaucoup. Et c'est vrai qu'elle porte un regard plutôt doux et indulgent sur cet endroit et ne considère pas qu'il s'agit d'un traumatisme national, comme vous l'avez dit, Kathleen.
Ce qui est agréable, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu une place qui a un centre de gravité assez bas. C'est-à-dire que, bon, même s'il y a des arbres que j'aime bien, des tilleuls, ça sent très bon au mois de juin, ça, j'aime beaucoup ça. Mais en fait, c'est du dégagé, quoi. Et ça, c'est pas très, très fréquent à Paris, quoi. L'espace, le regard, s'il veut se porter, s'il veut buter contre un mur, il faut qu'il aille assez loin, quoi. Là, voilà, c'est toutes ces parties qui sont jardins, qui sont calmes, quoi. C'est des halles très calmes.
C'est un jardin où vous vous promenez souvent ?
Pas trop, mais je le traverse beaucoup. Donc c'est vrai que j'y ai un peu des itinéraires, en fait. J'aime beaucoup le travail de fontaine qu'il y a. Par exemple, rien qu'en sortant là devant la porte Saint-Eustache, c'est très très joli la contre-plongée qu'on a sur de Saint-Eustache avec les fontaines quand on arrive.
On va voir.
Ici, la porte Saint-Eustache.
Et c'est très fréquenté ?
Ouais. Aussi bien par les gens des Halles qui ont besoin des fois peut-être de prendre un peu l'air, d'aller se mettre un peu au soleil, ça c'est assez fort.
Ceux
quoi.
Qui travaillent en dessous,
ouais,
dans le centre,
ouais,
commercial ?
Oui, ou tout d'un coup besoin de respirer un peu, quoi, de sortir.
Ouais, ça, oh, il y a des chats, regardez.
Oui,
là.
Bien sûr, ça c'est les grands habitants de ces jardins. Ouais. De temps en temps, on voit les petites portées passer par là, droite à gauche. Ça. C'est les arches de ces halles, de ces forums, qui reprennent, je trouve, assez bien celles qu'il y a sur les arcs, les arcs boutants, les arches qu'il y a aussi autour de Saint-Eustache, quoi.
Vous pensez qu'il y a un rappel ?
Ouais, on a joué avec cette masse qui monte comme ça dans le ciel. Et je trouve que tout d'un coup, à sa façon cachée et modeste, ce trou des halles représente ça aussi. C'est-à-dire... On a fait une chose importante, mais on ne le voit pas. À la fois, quand on est dans ce centre, on peut assez facilement, il y a quelques endroits, quelques rues, évidemment totalement privées de lumière, mais on peut très vite, à la sortie d'un magasin, être aux abords et avoir ce ciel qui est déjà là, qui est encore là. C'est vivable ici, quoi. Il n'y a même pas de jogger. Ça, c'est très... j'aime bien ça. Parce que des fois, il y a ce tournis là qui peut être un peu fatigant quand on est au calme dans un jardin. Et ici, ça n'existe pas. J'aime ça. Prendre un livre et finir quelque chose, un chapitre, quelque chose ici, ça, tranquillement. Ouais, c'est tranquille, quoi. Et puis voilà, ces cloches aussi.
Alors, je vais parler au nom de tous les banlieusards, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est vrai que les Halles, pour nous, banlieusards, en plus j'étais banlieusard du Sud, maintenant je suis du Nord, les Halles, c'est le sésame, quoi. C'est le premier endroit où on arrive, où ça grouille, où si tu veux donner rendez-vous à un copain qui habite n'importe où à Paris ou dans une autre banlieue, c'est le point de convergence, c'est le centre, et devant la FNAC, je pense qu'on peut interroger plein de gens, c'est le lieu mythique, quoi, devant la FNAC des Halles, c'est le rendez-vous, quoi. Et puis après, on peut aller partout. On peut aller à Montorgueil, on peut aller à Beaubourg, on peut aller à Châtelet, on peut aller... Et puis après, on part sur Saint-Michel. C'est ça, c'est l'ouverture sur tout, quoi.
Vous avez des souvenirs lointains qui remontent à cet endroit ?
Ah oui, ben moi déjà, comme mes parents adoraient Paris, toute petite... Alors moi, je ne sais pas de quand ça date, le forum, mais pour moi, dans mon imaginaire à moi, c'était tout neuf quand j'étais petite. J'ai 36 ans aujourd'hui et mes parents, on allait aux Halles pour voir la faune, quoi. Ce qu'on appelait la faune, c'est l'endroit où ça bouge. Je me souviens, c'est l'endroit où j'ai vu mon premier rasta. Et ça, c'est impressionnant quand on est toute petite. Un grand noir avec des cheveux aux fesses. Il y avait des punks. C'est l'endroit où on voyait toutes sortes de gens déguisés, ce que j'appelle déguisés, avec des looks pas possibles. Et c'était aussi les saltimbanques. Pour moi, dans ma tête, on allait au Halles comme le nouveau quartier où ça se passe. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a pas, justement, en plus, là, quand je parlais de culture intégrée, c'est-à-dire que c'est gratuit et on va voir des choses, quoi. On va voir des gens différents, on va voir des gens... Ça s'est peut-être un peu aseptisé. Et moi, c'est ce que je ressens encore maintenant. C'est-à-dire que j'ai moins de temps, je travaille, j'ai des enfants. Si je donne rendez-vous à des amis, je vais aller prendre un pot, faire refaire le monde pendant une heure et j'ai l'impression d'être à l'endroit où ça se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un endroit où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les classes, qui passent partout, peut-être qu'ils ne restent pas, mais je me prends un shoot parisien et je repars, je me réengouffre vers la banlieue, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas ça ailleurs.
Si on regarde donc la gare RER, cet énorme croisement de toutes sortes de lignes, c'est toujours un peu, je crois, angoissant, quoi, pour quelqu'un qui arrive à Paris pour s'y retrouver ici, parce qu'on n'a tout de suite aucun point de repère comme dans une gare classique. On ne sait pas où sont les quais, ils sont encore en dessous, et puis il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, on ne comprend rien, quoi, c'est ça. Mais je crois que c'est quelque part un bon compromis, quoi. Comment faire se croiser des milliers de gens toute une journée sans qu'il y ait d'affrontement, sans que ce soit... c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut passer autour des piliers, comme si on était dans un jeu de flipper. Et donc on doit passer, chacun va choisir, c'est aléatoire. Il y a un à droite, à gauche qui va se faire. Il y a quelque chose qui est assez fluide, quoi. Petite chose agréable, des gens qui viennent justement à Paris quelques instants, juste peut-être même pour un changement dans une gare ou je ne sais quoi. Tout d'un coup, ils se repassent, il y a un réflexe province qui est tout d'un coup, tiens, je suis au pied de chez toi, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut prendre un café? Est-ce que quelque chose? Ils se repassent ça, qui est beaucoup plus difficile à concevoir quand on est dans Paris et qu'on parle de quelqu'un de quartier à quartier, quoi. On n'improvise pas de la même façon. Et ça, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu en étant dans d'autres arrondissements. C'est sympa, ça, ouais.
Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, je sais pas, on sort Fontaine des Innocents, il y a toujours une manif pro-palestinienne ou des gens. Donc d'un côté, t'as des jeunes qui font du skate, tu peux manger ton McDo sur le bord de la fontaine. Pareil, il y a cette fontaine, c'est quand même un petit monument. Et tu peux signer une pétition. Pour moi, c'est ça ici, ça grouille. C'est le lieu de passage, c'est les Halles, quoi. Bon, moi, après, j'ai plein de souvenirs. J'ai travaillé aux Halles, j'ai travaillé au Gosport des Halles. Rien que les odeurs, là, entre le passage de la place Carré, je peux plus jamais manger un sandwich au thon, là.
Finalement, vous avez décrit des cercles concentriques. Vous, banlieusarde, arrivant à Paris au début, restant peut-être dans le quartier des Halles, et puis petit à petit explorant Paris.
Oui, on s'éloigne. C'est vrai que Montorgueil, j'ai mis plus de temps à le découvrir. Après, on va plus dans le Marais.
Oui, voilà, on explore petit à petit.
On va de plus en plus loin et c'est vrai que c'est marrant, ça. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être chez moi ici, mais bon... C'est grâce à ce quartier que j'ai l'impression d'être encore un peu en contact avec là où ça se passe, quoi. Avec Paris. Alors on va voir ce qu'ils vont nous faire avec leurs travaux, est-ce que ça va changer. Mais pour moi, c'est un peu tout neuf, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange de vouloir déjà changer ce quartier
qui fonctionne,
quoi. Ouais, qui fonctionne.
David Mangin, en écoutant les deux utilisatrices des Halles interrogées par Martine, je me disais qu'au fond, c'était peut-être le symbole aussi, ce nœud des Halles, comme un nœud dans le ventre, c'est le seul lieu où Paris et la banlieue se croisent, se mélangent, cohabitent. Et si ça se passe mal, c'est peut-être aussi le symbole de ce qui se passe plus largement entre la banlieue et Paris, qui n'arrive pas à communiquer ailleurs que dans ce nœud qui fait mal. Et que peut-être en l'améliorant, on améliorerait aussi le reste, un peu.
Oui, non. Bon, d'abord, les témoignages étaient tout à fait intéressants. C'est des gens qui parlent de choses qui connaissent. Ils donnent des pistes. J'espère qu'on répond justement, que ce soit la personne qui dit, mais c'est un peu comme une clairière. Et puis, mais en même temps, il faut des flux et en même temps, il faut des endroits où on puisse être tranquille. Donc, ça je pense que c'est une vraie question. Et puis, il y a cette expérience de la. De cette dame qui habite en banlieue et qui raconte un itinéraire, en fait, y compris un itinéraire personnel. Et parce que quand vous Qu'est-ce que font les jeunes en réalité? Vous habitez en Ville-Nouvelle à Marne-la-Vallée. Quand vous êtes petit, vous allez au centre commercial de Noisy-le-Grand, par exemple, ce qui est un premier stade quand vous êtes pré-ado. Et puis après, vous allez au Hall. C'est une espèce d'affranchissement. Par exemple, on a fait une enquête. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais il y a des gens qui ont fait une enquête. Ils ont raconté que c'était le point de rencontre donc des jeunes de banlieue. Mais ça veut dire qu'elle parlait du spectacle, de la mode, de la rue, en fait, qui se fait là. Et ce que montrait l'enquête, c'était que des jeunes des cités qui sont très scotchés dans leur cité, dans les codes vestimentaires, dans l'étiquette, et qui sont finalement très figés là-dedans pour des tas de raisons de contrôle social intérieur à la cité, quand ils vont au hall, ils se changent dans le RER. Et ils arrivent et ils ont un espace de liberté. Ils communiquent. Ils sont là, jeunes de banlieue. Ils ne sont pas de la cité, machin. Alors, de temps en temps, il y a des affrontements de cité à cité. Alors, c'est vrai qu'il y a le RER. Donc, il n'y a pas que les halles. Par exemple, les questions qui se passent sur les Champs-Élysées, par exemple. C'est-à-dire, c'est en fait parce qu'il y a un mélange de gens qui arrivent par le RER. Et puis qui se confrontent à, bon là, plutôt à une image touristique des Champs-Élysées. Et donc, il y a cette confrontation qui n'est effectivement pas toujours sans problème. Donc, comment faire pour qu'il y ait une possibilité d'échange? Moi, je pense qu'il ne soit pas conflictuel. Parce que ça peut être conflictuel, il ne faut pas être naïf. Ça peut être conflictuel. C'est des lieux extrêmement surveillés. C'est des lieux. Moi, j'avais plutôt l'idée qu'il fallait faire une grande place. Je crois que la police n'est pas très favorable à faire une grande place parce qu'elle a peur que ce soit un endroit de rixe possible, par exemple. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez sévères, de dégradation de l'espace public. Tout n'est quand même pas si rose que ça. Et donc c'est. Alors, moi, je crois qu'une des solutions, c'est d'essayer d'arriver à comprendre comment les choses peuvent marcher à des heures différentes, dans la semaine, à des heures différentes. Entre le Wall, on voit très bien ça. C'est-à-dire, il y a effectivement les gens qui sortent leur chien le matin ou qui font un petit bout de jogging, contrairement à ce que la dame dit. Et puis, donc, ils sont les gens du quartier. Et puis, les gens qui, à 4 heures, c'est l'heure des nounous. Un peu de deal qui sert au quartier, qui aussi avec les types qui travaillent plus tard et donc qui viennent à certains endroits. Donc, il y a des micro-lieux, mais il y a surtout des heures différentes et dans la semaine et dans les saisons. Et donc c'est ça qui. Ce que en jargon, peut-être un chrono-urbanisme, c'est-à-dire pas uniquement la question spatiale, parce qu'en fait, entre les horaires d'ouverture du transport, les horaires d'ouverture du centre commercial, qui sont assez faibles, qui sont en fait réglés par la FNAC, mais qui sont très inférieurs de ce qui devrait être dans un endroit comme ça. Vous seriez dans une métropole asiatique.
Ce serait ouvert 24 heures sur 24,
etc. Bon, et ça changerait peut-être beaucoup les choses. Et en bien ou en mal, à nouveau, c'est pas si simple.
Mais, oui, parce que là, vous décrivez une juxtaposition plutôt qu'un mélange.
La chose intéressante, c'est qu'à certains moments, ces horaires, il y a de l'interface, forcément. Donc, il suffit que vous soyez décalé, vous vous trouvez dans des situations différentes. Donc, dans ce genre, je pense que je décris un mélange. Alors, le risque, c'est quoi? C'est ce que l'ADEME appelle aseptisation. C'est en fait gentrification. C'est en fait qu'en rénovant, vous allez faire un espace public plus costaud, un peu plus. Voilà. Vous allez. Les beaux commerciaux, pour certains, vont probablement changer. On va rendre beaucoup plus commercialisables les niveaux moins 2 et niveaux moins de l'ancien forum, qui jusqu'à maintenant n'est pas forcément des niveaux qui marchent très très bien, parce que les systèmes justement d'escalators filent de très très vite pour sortir les gens. Donc au niveau moins 3, ça marche très très bien, et au niveau moins 2, au niveau moins 1, ça marche moins bien. Donc il va y avoir des mutations commerciales, et donc évidemment le risque, et c'est d'ailleurs toute la question par exemple de ce qui se passe sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut du mass market, comme disent les spécialistes, ou est-ce qu'on veut des choses plus chic et choc? Voilà, à chaque fois qu'on a essayé d'ailleurs de faire des choses plus chic et choc, ça n'a pas marché. Donc on voit bien que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Mais évidemment, une rénovation, ça coûte cher. Évidemment, on va bouger un certain nombre de choses. Donc comment faire pour que ça reste ça reste la porte de la banlieue, parce que je pense que c'est ça sa vertu, mais en même temps que ce soit un peu plus beau, je l'espère, mais en tout cas que ce soit plus, un peu plus respectueux quand même, je pense, d'un environnement pour des gens qui bossent dur dans le quartier, qui bossent dur dans la région parisienne. Les transports, c'est pas marrant. Et donc, je pense que ça, c'est quand même pas convenable de laisser un certain nombre de choses dans l'état.
Donc, rendez-vous en 2013. Donc, si tout va bien.
Si tout va bien, rendez-vous en 2013.
Oui, voilà. On peut rêver un peu.
Oui, oui.
Ça bien, ta bouche, ta voix, les escalators, trajectoire, ton corps dans Paris, quelque part, le boulevard, les cafés déserts, je pense à toi, en terrasse, pas grand chose à faire, ça ressemble à quoi, une journée à perdre en été, avec dans la poche tes deux clés. Dans les musées, le tout début d'une histoire est plus beau qu'un urinoir de Marcel Duchamp bébé. À midi, j'attendrai le soir. À 14h, l'obscurité. Le tout début d'une histoire est meilleur qu'un vieux Godard. Un popcorn climatisé. Les posters, les filles australiennes. Je pense à toi. Au fond d'un garage Citroën. Ta bouche, ta voix. Les sacs bananes au Sacré-Cœur. 10 000 caméscopes en chaleur. Ou bien on va au bord de l'eau. Je pense à toi. Ou bien on dort. Un bureau, ça ressemble à quoi? D'accoupler dans un sac plastique. Peter Falk et les Tinder Sticks. Bang, bang, au milieu du trottoir. Je n'irai pas le bateau mouché. Le tout début d'une histoire est mieux qu'un vous pouvez voir. Sur votre gauche, l'assemblée. J'attends le soir en dévisageant ton quartier. Mais le début d'une histoire n'a pas trop grand chose à voir avec du tissu soldé. Hier soir, j'ai trouvé ça bien. Les posters, les filles australiennes. Je pense à toi. Au fond d'un garage Citroën. Bang bang au milieu du trottoir. À 18h, j'attends le soir.
Sur France Inter.
La ville moderne se situe partout, même dans les tentatives de faire de Paris une opérette du Châtelet et de faire des villes nouvelles, Blanche-Neige, enfin une nouvelle représentation de Blanche-Neige et les Sept Nains avec enfin, tout l'imaginaire de Walt Disney, la maison des petits cochons, la maison en branchage, la maison en briques. Enfin, il suffit de se promener vers Marne-la-Vallée pour voir que métaphoriquement, bien entendu, tous ces types d'architecture sont là représentés. La ville moderne, elle est faite aussi de ces scories-là, mais elle est faite du périphérique, des usines qui rêvent, des canaux. Elle est faite de cette convulsion. Je crois que la... Pas quel poète il faudrait citer, que... Je ne dirais pas « La beauté sera moderne » ne sera pas, parce que ce serait une fausse citation, mais elle est faite de tout ça. Et je crois que ce qu'il nous faut accepter aujourd'hui dans l'ordre culturel, dans l'ordre esthétique, c'est cette réflexion sur plusieurs plans d'une culture, d'une vulgarisation de masse qu'on appelle la culture rock, qui est un peu snob aussi à son genre, de la culture académique, de la culture de la consommation, des signes extérieurs de richesse ou des signes extérieurs de distinction. Et en fait, on trouve tout cela dans la ville moderne.
Voilà, c'était Paul Chemetov, hein, 88. David Manchin, lui aussi, a été attiré un temps par cette rénovation des Halles et puis n'a pas été retenu. Et c'est intéressant cette idée qu'il exprime ici, d'une ville où on est obligé de faire cohabiter ce qu'il appelle les scories, les rêves, la modernité, le passé. Et je me demandais si dans ce projet des Halles auquel vous allez participer et que vous allez coordonner, vous aviez réussi à faire passer vos idées que l'on connaît sur ce que vous appelez la ville passante, sur la mixité fonctionnelle. Est-ce que ça vous semble, ce projet tel qu'il va se réaliser sans doute, correspondre à ce que vous avez défendu depuis déjà un certain nombre d'années?
Oui, mais les Halles, c'est très compliqué, mais à certains égards, c'est l'hypertrophie de la ville passante, puisque c'est du flux piéton, du flux de transport en commun. Les transits automobiles, ils sont finalement très réduits. L'autoroute souterraine, elle fonctionne très marginalement. Donc là, c'est plutôt c'est essayer de l'hypertrophisme d'une ville passante, d'essayer de le faire fonctionner. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a essayé quand même d'inscrire ce projet-là dans, tout bêtement, la continuité des rues et l'enchaînement des grands espaces publics parisiens. Donc faire que ce ne soit pas uniquement considéré comme un monde en soi, mais comme... une grande séquence, une grande séquence qui a sa particularité, qui est d'être ce centre régional, cette entrée dans Paris, mais qui en même temps, d'une certaine manière, quand même appartient à la totalité de Paris, donc à son réseau. Le projet, la situation actuelle, elle a quand même cette difficulté, c'est que on voit bien qu'on a besoin de passer, par exemple, de nord-sud des grands boulevards pour aller vers la Seine. On a besoin d'aller de est-ouest du Louvre pour aller place des Vosges. Et donc, il faut pouvoir faire ça extrêmement naturellement, tout en découvrant finalement le plus grand jardin possible. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, ça, c'est une première idée. C'est simplement qu'on puisse fonctionner avec les rues, telles qu'elles sont et dans leur continuité des rues. La seconde, c'est de se bagarrer. C'est un bagarre assez difficile, évidemment, tout le temps. C'est se bagarrer pour que l'espace public reste public. C'est-à-dire que la grande difficulté de la ville contemporaine, c'est que l'espace public se réduit de plus en plus. C'est-à-dire où il est ramené à des flux de circulation. Là où on construit massivement, c'est-à-dire dans la périphérie, ce qui n'est pas exactement les friches de banlieue où effectivement les choses se sédimentent, vous avez plusieurs âges de la ville qu'il faut conjuguer. Ça, d'une certaine manière, c'est relativement facile à faire, avec un certain nombre de principes de relatif bon sens. En revanche, trouver des alternatives à ce qui se fait massivement dans la grande périphérie, ça, c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus des opérateurs privés qui font des modèles urbains qui sont complètement dépendants de l'automobile. Donc, alors, moi, j'ai absolument rien contre l'automobile. Simplement, je pense que pour les services quotidiens que sont l'accès à un transport en commun, l'école et des services, des commerces de proximité, il faut pouvoir y aller par d'autres modes de déplacement forcément que l'automobile. Pourquoi ? Parce que les gens vont vieillir, les gens vont peut-être avoir moins accès à l'automobile. Et donc, il faut pouvoir faire une ville qui puisse fonctionner sans que chaque ménage ou chaque personne ait une voiture, voire deux voitures, qu'elles soient électriques ou non. Donc c'est plus qu'un enjeu énergétique, je pense, c'est un enjeu de mode de ville
On a le sentiment justement sur ces questions-là, David Mangin, qui nous concerne beaucoup, parce qu'on sait qu'on est de plus en plus habitants des villes et de moins en moins habitants des campagnes. Et on a le sentiment que la France est terriblement en retard par rapport à d'autres pays. L'autre soir, je ne sais pas, je crois que c'était en Hollande, on nous montrait des logements en hauteur, plutôt beaux d'ailleurs, très écologiques, et dans lequel se situent les restaurants, les commerces de proximité, les écoles, les lieux pour les personnes les plus âgées. Et on entendait des architectes et des urbanistes hollandais nous dire que c'était sans doute des lieux où les gens vivaient plus agréablement. Nous, ici, on essaye de combiner des choses qui semblent difficilement combinables aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que la France, à certains égards, est extrêmement rodée par un certain nombre de modèles qui s'exportent d'ailleurs très bien, qui sont celui de la grande consommation, qui sont le supermarché, qui sont le zoning, très, très efficace pour la voiture. La grande distribution, avec la nourriture comme produit d'appel, c'est vraiment une invention française et ça structure énormément de choses en réalité. Alors peut-être pour être pour essayer de rester dans des explications historiques de pourquoi est-ce qu'on en est là, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les gens en ont un peu marre de se balader en bagnole d'un centre commercial à un autre. Donc il y a l'idée que pouvoir avoir, par exemple, que les commerces soient en rez-de-chaussée, que les parkings soient pas des nappes de parking imperméabilisées, qu'il puisse y avoir plusieurs fonctions au-dessus du commerce, alors qu'on a beaucoup de mal à faire des rez-de-chaussée qui fonctionnent. Je pense que ces idées-là, petit à petit, commencent à gagner beaucoup de terrain.
Mais vous, David Mangin, dans ce débat aussi qui occupe beaucoup les journaux et les habitants, faut-il construire en hauteur à Paris, par exemple ? Vous êtes plutôt partisan d'avoir des immeubles de grande hauteur ?
La question de la hauteur, c'est une question toute relative, c'est-à-dire que là, elle est posée du genre, vous êtes pour 50 mètres, on ne sait pas de quoi on parle.
Non, mais est-ce que c'est une solution dans certains quartiers ?
Non, mais je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut faire des grandes tours pour des raisons de rivalité métropolitaine et faire des grands gestes architecturaux, il faut que les gens qui veulent faire ça assument, puissent le financer, ce qui est une autre paire de manches, et le fassent. Est-ce que c'est une réponse au problème de Paris et de sa région, parce que je pense que le problème n'est pas tellement parisien, il est plutôt de sa région. Moi, je pense que le grand problème de la région parisienne, c'est qu'il y a peu d'endroits denses d'emploi. Vous avez quoi ? La Défense. Et puis sinon, vous avez des pôles d'emploi, certes, mais finalement relativement faibles. Et donc, les gens n'arrêtent pas de traverser toute la région parisienne avec une énorme difficulté. Bon, ça alimente tous les journaux, la saturation du réseau, etc. Donc, il faut être capable de trouver des procédures qui finalement dépasse les maires, parce que les maires, seuls face à leurs électeurs, il y a des maires constructeurs, mais il n'y en a pas beaucoup, il faut le savoir. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup de problèmes de construire. C'est plus de problèmes, c'est plus d'emmerdes, pour parler trivialement, que de bénéfices. Alors, il y a des maires constructeurs à Nantes, il y a Saint-Nazaire, Bordeaux, Lyon, il y a des maires formidables pour ça. Donc ça existe. Mais c'est des maires d'agglomération. Le gros problème de la région parisienne, c'est qu'il y a énormément de maires. Il y a du foncier, mais on ne sait pas l'inventer. Il y a des tas d'endroits où on pourrait construire et puis finalement, on n'ose pas ou on ne sait pas ou on ne veut pas. Donc ça oblitère. Donc il faut trouver des mécanismes qui permettent de faire des quartiers denses. Alors, pour répondre assez directement à votre question, à ce moment-là, il faut voir si c'est intéressant de construire. Par exemple, je pense qu'habiter jusqu'à 50 mètres de hauteur, c'est-à-dire 16 étages ou quelque chose comme ça, ça peut solutionner à la fois un niveau de service, puisque ça permet de regrouper plusieurs choses autour, des halls qui soient qui soient pas des trucs misérabilistes, et puis donner aux gens, parce que aussi il y a un problème de la région parisienne, c'est que finalement ils n'ont pas une alternative à la maison individuelle. Voilà, et ça c'est la responsabilité des architectes, c'est de trouver quand même des formes d'habitat, inventer des formes d'habitat qui soient attractives, qui donnent envie et qu'elles soient hautes ou pas.
Mais là, on a parlé, par exemple, longtemps des halles et de ce nœud ferroviaire qui existe et qui permet justement l'arrivée à Paris de ceux qui habitent en dehors du périphérique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, en ce moment, repenser au lien entre Paris et sa banlieue ? Parce que ce périphérique est devenu plus un mur qui enferme qu'un moyen de se déplacer facilement.
Oui, alors pour être, je ne sais pas si les gens connaissent assez bien la région parisienne, mais en fait, beaucoup de choses se jouent maintenant plutôt dans la rocade supérieure, qui est ce qu'on appelle la A86, voire la francilienne. Donc ce qui manque à Paris, c'est une vision d'un peu l'ensemble du réseau et où il faudrait mettre des pôles d'emploi un peu forts, où est-ce qu'il faudrait mettre, quelle procédure pour réussir à faire des quartiers plus proches.
Vous parlez d'un monde idéal où des politiques arriveraient à parler ensemble des problèmes
qui
nous
concernent
tous. Oui,
mais là, je vois, par exemple, dans cette consultation du Grand Paris, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'état de grâce, c'est-à-dire les gens discutent. Vous avez des gens du conseil régional qui, au départ, évidemment, il voit aussi un peu une manœuvre politique qui, évidemment, existe. Mais là, ça discute beaucoup. Et je pense que l'expo qui aura lieu, et en espérant qu'elle soit itinérante dans la région parisienne, elle permettra de faire déjà œuvre pédagogique, si vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, les politiques ne savent vraiment pas quoi faire. C'est-à-dire, on leur soumet des projets de rocade de transport en commun pour essayer d'alléger ce transport. Mais si c'est pour continuer à amener tout le monde à la défense, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut avoir des mesures qui fonctionnent à la fois sur le logement, à la fois sur l'emploi et à la fois sur le transport. Donc, mais peut-être sur des segments, plutôt que de faire des grands projets globaux qu'on ne pourra pas financer, on le sait. Et donc voilà, c'est de prendre acte qu'effectivement, il y a des systèmes de transport qui vous amènent au centre de Paris, les Halles, mais il faut en inventer. Vous avez des tas de gens qui vivent dans la région parisienne, mais qui ne vont jamais à Paris et qui se débrouillent très bien. Ils sont très heureux. Simplement, ils ne sont pas heureux s'ils ont à traverser toute la région parisienne pour leur boulot, en n'étant pas sûr d'arriver à l'heure ou en revenant épuisé. Donc ça ne va pas. Mais à partir du moment où vous êtes dans une métropole de 12 millions d'habitants, c'est pas rien. C'est la particularité de la France. Vous avez 12 millions d'habitants, puis derrière, quelques villes qui se battent pour arriver à 1 million d'habitants. C'est très particulier. Donc là, on a affaire à une métropole. Ça fonctionne autrement. Ça peut fonctionner avec le centre. Et donc, c'est les Halles dont on vient de parler, mais c'est aussi l'ensemble des stations de RER, grosso modo, Aubert, etc., où il se passe des choses. Et puis, ça peut aussi fonctionner. Il faut inventer d'autres centralités qui existent pour elles-mêmes, avec leurs propres valeurs, dans la région parisienne.
Est-ce que vous avez le sentiment, David Mangin, qu'on va passer de l'époque où chaque geste urbanistique ou architectural était considéré comme un traumatisme supplémentaire, à une période où ça peut être considéré comme une chance, comme un moyen d'améliorer beaucoup, beaucoup de choses dans le vivre ensemble?
Écoutez, j'espère que je suis pas devin. Moi, simplement, je vois bien les maires, hein, par exemple, à chaque fois qu'on commence un nouveau projet, faites-nous rêver, soyez créatifs, etc. Puis dès que vous proposez une chose un peu décalée, qui poserait un petit problème d'expropriation ou de riverain qui tout d'un coup n'aurait pas la vue auquel il est habitué... On fait machine arrière. Donc les choses, quand même, il y a de la marge. Donc il y a quand même pas mal de conditions politiques à réunir pour pouvoir arriver à faire ça. Mais encore une fois, il y a des maires qui le font. Il y a des maires qui font appel à des étrangers, mais aussi il y a d'excellents architectes français. Et donc il y a pas de raison pour... voilà, simplement, il y a des raisons. C'est si la décentralisation est allée très loin... Il n'y avait pas de décentralisation, on est allé très très loin dans ce système de 36 000 communes. Et évidemment, ça, dès qu'on veut, si on veut raisonner des choses, et les villes ont englobé ces petites communes. Et donc, tant que moi, mon sentiment, comme beaucoup de gens d'ailleurs, tant qu'il n'y aura pas des hommes politiques élus au suffrage plus ou moins direct d'agglomération, ce sera très difficile d'avoir des politiques un peu plus ambitieuses sur la maîtrise des grands territoires, à partir des écosystèmes, à partir de... Voilà, et de et de faire de vraies centralités.
Comme quoi, en parlant architecture, on finit par parler politique. Merci beaucoup, David Mangin, d'être venu effleurer ce sujet qui est important ce soir avec nous. Je rappelle donc que le rendez-vous optimiste pour les Halles nouvelles, c'est 2013, disons. Donnons-nous quelques années supplémentaires. Et pour en savoir plus, je vous recommande de vous reporter à des livres tout à fait passionnants qui ont été publiés par les éditions Parenthèse dans la collection Architecture. Livre auquel a participé David Mangin, ça s'appelle « Les Halles, ville intérieure ». Et puis un autre livre qui s'appelle « La ville passante » et qui est publié également aux éditions Parenthèse. Merci à vous, David Mangin.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Et bien voilà, l'humeur vagabonde, c'est fini pour nous aujourd'hui. Vous avez pu entendre Mélissa Lavaux qui chantait Needle in the Hay et Vincent Delerme. Je pense à toi, France Inter continue après les informations avec Laurent Lavige sur la route. À demain.